France Inter, 7h.
France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9.
Bienvenue sur Inter, bonjour à tous. Nous sommes le lundi 12 octobre. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, les syndicats de police attendent des mesures fortes après l'attaque ce week-end du commissariat de Champigny-sur-Marne. Le ministre de l'Intérieur, qui s'est rendu sur place hier soir, a d'ores et déjà annoncé l'interdiction de la vente sur Internet des tirs de mortier d'artifice. De plus en plus utilisé, Agnès, on voit ça après les autres titres.
L'épidémie de Covid-19, Toulouse et Montpellier basculent en zone d'alerte maximale. La moitié des députés en télétravail, les professionnels du tourisme reçus à Matignon et des opérations escargot ce matin de ceux qui s'estiment exclus du plan de relance. Fini le concours écrit pour entrer à Sciences Po Paris. Reste le grand oral, mais en visio. Et puis le rire de Cabu, une expo à la mairie de Paris, remède à la barbarie.
J'ai failli vous interrompre, Agnès, pour dire les invités de France Inter ce matin à 7h50 avec vous, Léa.
Le premier accusé de Balance ton port, c'était lui. Mis en cause dans un tweet, il a perdu sa femme et son boulot. Il a porté plainte pour diffamation et la justice lui a donné raison. Éric Brion livre sa version des faits dans un livre. Balance ton père chez Lattès, il est notre invité à 7h50.
Et à 8h20, Léa, nous nous retrouvons pour le grand entretien de la matinale ce matin avec l'économiste Philippe Aguillon. Il est professeur au Collège de France et co-signe Le pouvoir de la destruction créatrice chez Odile Jacob. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000.
France Inter.
Répondre vite au malaise des policiers après les deux attaques de la semaine dernière dans le Val-d'Oise et le Val-de-Marne. Emmanuel Macron recevra jeudi les syndicats de policiers, le ministre de l'Intérieur les recevra demain, mais dès hier soir, Gérald Darmanin s'est rendu sur place dans ce commissariat de Champigny-sur-Marne, attaqué dans la nuit de samedi à dimanche par une quarantaine de personnes armées de barres de fer et de mortiers d'artifice. Gérald Darmanin a annoncé que ces pétards très puissants seraient interdits à la vente et considérés comme des armes par destination. Christophe Rouget est le secrétaire général du syndicat SCSI Police Nationale. Il témoigne de l'utilisation de plus en plus fréquente de ces mortiers d'artifice.
Ces fusées sont très dangereuses parce qu'elles provoquent des brûlures, des problèmes aussi auditifs parce qu'elles génèrent énormément de bruit. Et donc elles font partie maintenant de tout le panel des armes qu'utilisent les délinquants au quotidien, soit pour attaquer les pompiers, soit pour attaquer les policiers, soit aussi dans le cadre de rixes entre bandes violentes dans les quartiers. Ces mortiers d'artifice étaient autrefois utilisés uniquement lors des fêtes du 14 juillet ou du Nouvel An, mais depuis, leur usage s'est démocratisé. Tous les jours, des policiers dans leurs véhicules en patrouille font l'objet de tirs de feux d'artifice. Aujourd'hui, il est très facile de se procurer ces engins dans des commerces, mais également sur Internet. Donc il faut modifier la législation européenne et française. Donc il faut que le ministre de l'Intérieur, que nous voyons mardi, propose un plan d'action. Trop de policiers sont victimes d'attaques de la part de délinquants totalement désinhibés.
Un propos recueilli par Corinne Audouin. Les images spectaculaires de l'attaque ont provoqué de nombreuses réactions politiques. Les habitants du quartier de Bois-l'Abbé, où se situe le commissariat de Champigny-sur-Marne, espèrent, eux, un véritable changement. Marion Ferrer est allée à leur rencontre. Reportage.
C'est une ville dans la ville, un quartier régi par les règles de ses dealers. Des habitants nous ont confié devoir montrer leurs papiers pour entrer dans le hall de leur immeuble ou encore ne plus oser sortir le soir, comme cette voisine du commissariat.
Au mois d'avril, ça a été 24 jours, tout le temps comme ça. Il y avait une vingtaine de camions, des policiers qui venaient, donc en renfort, c'était comme ça. Les pétards, le feu, il y a toujours des choses.
Un sentiment d'insécurité partagé par Marie et Yvette. Ces deux retraitées vivent à Champigny depuis 40 ans. Elles espèrent que l'arrivée du nouveau maire va changer les choses.
On va au cinéma, on n'y va que la journée parce que justement, on a peur de se faire attaquer le soir. C'est-à-dire on a un nouveau maire là qui va mettre une police municipale qu'on attend depuis des années. Alors là, on en attend parce qu'il vient d'être élu. Mais on est un petit peu soulagé.
Pour Mamadou, cette nouvelle police municipale n'est pas la solution. Ce militant associatif juge que le dialogue s'est rompu avec la jeunesse des cités.
On a eu déjà des renforts de police, la BST, la PSQ, toutes formes de police qui sont installées sur ce commissariat. On voit bien que ça n'a pas apaisé les choses, donc je pense que ce n'est pas la police municipale qui va régler ce type de problème.
Le maire, Laurent Jeanne, a promis 22 agents municipaux armés, mais cette brigade ne devrait pas voir le jour avant 2022.
Reportage de Marion Ferrer. Enfin, le syndicat Unité SGP Police appelle à des rassemblements dès aujourd'hui à midi devant les commissariats.
Il est 7h05, Agnès. Toulouse et Montpellier en zone d'alerte maximale.
Les nouvelles mesures de restriction entreront en vigueur ce soir à minuit à Montpellier, donc Toulouse et 17 communes limitrophes, dont Blagnac, Balma, Limbège ou encore Portet-sur-Garonne. Nouvelles règles également pour les députés. Désormais, la moitié d'entre eux sont priés de rester chez eux en télétravail, car le nombre de cas de Covid-19 ne cesse d'augmenter. Une règle, Maxence Lambrecq, qui agace pourtant bon nombre d'élus.
Les députés partagent le scepticisme de leurs électeurs face aux restrictions du moment. Eux aussi ont l'impression de perdre en liberté. L'insoumis Loïc Prud'homme et l'ancienne marcheuse Agnès Thil ont peur d'être mis de côté.
Je m'inquiète effectivement que ce soit une pente. Aujourd'hui, on nous dit moitié de la jauge. Dans 15 jours, on va nous dire 25%. Et puis, on finit à combien ?
Je ne vois pas pourquoi le Parlement ne pourrait pas travailler. Et ça donne une formidable excuse aux ordonnances, aux décrets et aux décisions du seul ministre. Or non, c'est un déni de nos institutions. On doit être là avec les mesures barrières.
Tous portent le masque, en effet, mais ça ne suffit pas dans cette fourmilière qui brasse tous les coins de France. Au printemps, les députés ont bricolé pour continuer à travailler. Aujourd'hui, ils aimeraient pouvoir enfin voter à distance et ça n'est pas encore d'actualité, regrette le socialiste Boris Vallaud et l'écolo Mathieu Orphelin.
Oui, ça ne me paraît pas, vous voyez, tout à fait insurmontable sur le plan technologique de voter à distance.
Je ne comprends pas pourquoi on met autant de temps. Même le Parlement européen, qu'on accuse toujours d'être la grosse machine, etc., ils ont réussi à mettre le vote à distance. J'en ai discuté avec beaucoup de députés européens, ça se passe très bien.
Le vote à distance, amendement par amendement, c'est impossible, répond la présidence de l'Assemblée. Pour ou contre les textes de loi, en revanche, ça marche déjà par courriel et d'autres mesures de télétravail seront annoncées ce mois-ci.
Télétravail impossible pour les forains, les professionnels du cirque, les conducteurs de car, les chauffeurs de VTC qui se mobilisent ce matin avec des opérations escargots un peu partout en France. Nous ferons le point dans le journal de 8h. Les professionnels du tourisme vont se battre de leur côté à Matignon aujourd'hui. 6 milliards d'euros ont déjà été engagés par l'État pour soutenir la filière, mais les inquiétudes restent fortes. Alors que les vacances de la Toussaint démarrent à la fin de la semaine et que les réservations sont en nette baisse, il faut dire, Marie-Pierre Véraud, que se déplacer en Europe est un véritable casse-tête.
La liste des pays où le touriste français entre sans entrave se réduit comme peau de chagrin. Pour l'heure, il est encore possible d'aller sans trop se poser de questions, flâner, masqué bien sûr, dans les rues de Lisbonne ou Séville. Le Portugal et l'Espagne n'imposent en effet pas de restrictions à l'entrée aux voyageurs français. Pas de quarantaine ni de test, juste un formulaire à remplir. Mais attention aux régions espagnoles bouclées qu'il convient d'éviter comme celle de Madrid. Si l'on est en quête de soleil, la Grèce reste très accessible, à condition de remplir un formulaire avant le départ pour disposer d'un QR code indispensable. Pour l'Italie comme la Belgique ou l'Allemagne, mieux vaut se munir d'un test négatif de moins de 48 heures, traduit en anglais ou allemand, même s'il est toujours possible d'en réaliser un à l'arrivée. Le Royaume-Uni ou les Pays-Bas découragent les courts séjours, quarantaine obligatoire de 10 à 14 jours. Pour un goût de liberté sans masque, visez la Suède, mais pas le Danemark, fermé aux touristes français. Tout cela est très évolutif, il faut donc se renseigner jusqu'au moment de partir.
Europe, où peut-on partir pour les vacances d'automne ? C'est à lire aussi sur franceinter.fr. Lui s'estime guéri et repart en campagne. Donald Trump entame aujourd'hui un marathon de meetings dans l'espoir de rattraper son retard sur Joe Biden d'ici à l'élection le 3 novembre prochain. Donald Trump attendu en Floride, en Pennsylvanie et dans l'Iowa.
Il est 7h09, c'est une nouvelle petite révolution. À Sciences Po Paris.
20 ans après la discrimination positive, c'est le concours écrit d'admission qui va disparaître. L'oral lui reste, mais en visio. Chaque année, 10 000 élèves sont candidats pour 1 600 places. Les détails de la nouvelle procédure d'admission seront dévoilés aujourd'hui. Sonia Princé nous en donne les grandes lignes.
Le premier critère de sélection repose sur les notes du lycéen depuis la seconde. L'idée n'est pas seulement de recruter de très bons élèves, mais de voir aussi leur cheminement, leur progrès. Certains jeunes garçons notamment sont encore un peu endormis en seconde, explique-t-on à Sciences Po. Ils réussissent plus tardivement. La persévérance est importante. Le deuxième critère porte sur les notes des épreuves écrites du bac, le français et les enseignements de spécialité du nouveau bac. La spécialité histoire-géo, géopolitique et sciences politiques n'est pas un prérequis pour l'admission à Sciences Po. Toutes les combinaisons, y compris à dominante scientifique, sont les bienvenues. Troisième élément, le candidat devra produire un écrit qui retrace ses expériences, ses engagements, que ce soit en classe, dans sa ville ou dans sa famille. Ce n'est n'est pas une lettre de motivation au sens classique, mais davantage une présentation de sa personnalité. Enfin, le candidat passera un oral. On veut réouvrir notre institution à tous les talents, précise-t-on à Sciences Po, où on espère attirer des profils atypiques. Le nombre de boursiers stagne depuis 3 ans à environ 25% des admis. L'objectif est d'atteindre au moins 30%.
8 jours après les intempéries dans les Alpes-Maritimes, le bilan toujours provisoire est de 5 morts, 2 corps restent à identifier et 9 personnes sont encore portées disparues. 2 villages de la vallée de la Roya, Tinde et La Brique, restent toujours sans accès selon les pompiers. Le village de Fontan, lui, a pu être désenclavé. En bref, en sport, un match nul entre la France et le Portugal hier soir au Stade de France en Ligue des Nations. Les deux équipes sont d'ailleurs à égalité en tête du groupe 3. Prochain match mercredi, Croatie-France et Portugal-Suède. Et puis un 13e sacre pour Rafael Nadal hier à Roland-Garros, qui s'est imposé en 3 petits sets face à Novak Djokovic, 6-0, 6-2, 7-5. Roland-Garros, dont certains matchs ne seront plus diffusés gratuitement l'an prochain. Nous y reviendrons dans le journal de 7h30. Enfin, le rire de Cabu, c'est le titre de l'exposition consacrée au dessinateur en ce moment à la mairie de Paris, alors que se tient le procès des attentats de janvier 2015, dont Cabu est l'une des victimes. Le rire de Cabu comme une antidote à l'obscurantisme, à la bêtise et à la morosité. Alexandra Hakoun.
On tombe sur lui dès l'entrée, ses lunettes rondes, sa coupe au bol, son sourire jovial. Debout derrière son bureau, Cabu nous accueille.
Bienvenue chez lui. Hein.
Jean-François Pittet, commissaire de l'exposition.
C'est dans son bordel, dans son bureau d'ado pas rangé, puisque Cabu c'était un éternel adolescent, donc voilà.
Un bazar qu'avec l'épouse de Cabu, Véronique, Jean-François Pittet a passé 2 ans à ordonner pour en exhumer les 350 dessins exposés.
Il fallait que les dessins fassent rire, fassent réfléchir. C'était un humaniste, quelqu'un qui aimait les gens et qui leur faisait prendre conscience de pas mal de choses.
Comme la bêtise, incarnée à merveille par l'une de ses créatures les plus célèbres, le beauf.
On a ce beauf qui a commencé comme ouvrier dans les usines d'armement ou bistrotier. Ensuite, le nouveau beauf qui bossait dans la pub. Et puis fin 2014, Cabu a créé le fils du beauf qui bosse dans l'événementiel.
On croise aussi le grand Duduche, la fille du proviseur, Dorothée, des people comme Johnny.
Que Cabu a détesté depuis le début.
Lui qui n'aimait que le jazz. Johnny représenté en écorché shooté à l'agneau et au calva. Des politiques, bien sûr.
C'est par exemple lui qui aurait trouvé l'histoire du cul de poule pour le visage de Giscard.
Impossible de garder son sérieux devant pareil dessin. Et Cabu, au fil du parcours, rit avec nous. Même si au final, c'est la tristesse qui l'emporte face à cet artiste incroyablement prolifique dont on nous a privé.
Le rire de Cabu, un antidote à la morosité, c'est jusqu'au 19 décembre et c'est gratuit, mais attention, il faut auparavant s'inscrire à l'avance sur le site internet de la mairie de Paris.
Merci Agnès, c'était le journal d'Agnès Soubiran. Dans 3 minutes, le zoom dans le Haut-Karabakh, cessez le feu précaire entre Arméniens et Azéris.